noi sfortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità, ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo, atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello, spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per dingrindina che ce l'ho? Marcello, sono fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può germire la gioventù.
Bonsoir e benvenuti su Nino Domani a Palermo, Cantravantizio, Pancazzo FM. Vous êtes à l'écoute de moi-même, Simone Cilluffo, ou Cilluffo, si vous préférez à la française. Et dans cette émission, on va se relier à ce qui c'était l'émission d'avant sur Pirandello. On a fait des émissions sur Pirandello, on a vu dans une première émission le ce qui appelle che Pirandello appelle des comédies, ma che in realtà sono des tragédies. On a vu Così è se vi pare, e on a vu aussi il gioco delle parti, secondo ça si vous semble, le jeu de rôle. Après, dans la toute dernière émission, on a vu aussi personnages d'enquête d'auteur et on a vu Henri IV. Et on va se relier à ces deux dernières pièces. On va se relier à ces dernières pièces de Pirandello pour pouvoir nous poser, illustrer plutôt que nous poser une question, pour pouvoir illustrer ce qui est Monsieur Mario Puppa a commenté de cette façon-là. Je l'ai en italien, après j'essaie de le traduire. La partitura pirandelliana si presenta come specie nella pulsione metateatrale, quale la planificazione di un caos, la trascrizione di un decentramento non risolto tra le forze invitate a produrre l'evento. Gli attori versus i personaggi, i registri versus il pubblico, la strada versus l'edificio teatrale. La storia raccontata al passato versus la ripetizione dell'azione nel presente. On va traduire. La partition pirandellienne se presenta spécialement dans la pulsion métathéâtrale telle que la planification d'un chaos. La transcription d'un décentrement non résolu entre les forces invitées, conviées à produire l'événement. Les acteurs vers les personnages, les registres vers le public, la route vers l'édifice théâtral, l'histoire racontée au passé vers la répétition dans l'action du présent, dans l'action présent. On va, à propos de ça, en fait, il faut dire, il faut faire un peu. On a compris déjà dans cette première partie, dans cette, on va dire, consigne, dans cette ce qui commente cet auteur sur Pirandello, on comprend comme Pirandello est l'écrivain, le metteur en scène, le romancier du ce qu'on appelle le chaos du grec, chaos en grec. Le chaos est cette histoire pirandellienne qui est vraiment confuse et qui est vraiment, à qui pas très compréhensible pour le public. Il faut dire que Pirandello même, c'est l'hasard, c'est pas l'hasard, il Pirandello même naît all'indomani dell'Unione d'Italia, donc l'Unione d'Italia c'était 1864, lui il naît 1865, dans un hameau à côté d'Agrigento, et cet hameau s'appelait pour justement Chaos. Pardon. Lui, il s'est réfugié dans cet hameau, il avait sa belle maison de campagne avec un pain. Il se mettait sous ce pan-là, il réfléchissait en contemplant le magnifique panorama della Vallée des Temples, les temples d'Agrigento qui sont mieux conservés que le Parthenon à Athènes. E Pirandello, il était immergé dans cette contemplation, dans cet amour du chaos. Lui, en plus, la vie pirandellienne est immergé aussi dans la follia, parce que la fan de Pirandello elle était folle, et Pirandello accepte de la mariée, mais quand même après des années il est obligé à la faire interner parce qu'elle était devenue ingérable. Donc on va dire que Pirandello a toujours vécu dans la follia, toujours vécu immergé dans ce problème de la folie, même pour sa question familiale, sa question intime à lui. Et on ressent tout ça dans l'œuvre de Pirandello, dans toutes les œuvres de Pirandello. Qu'est-ce que c'est la folie? Qu'est-ce que c'est la normalité? Qu'est-ce que c'est le rapport que la société a avec l'individu et le rapport que l'individu a avec la société? Ora, pour pouvoir dénouer cette nez énorme et cérébrale, parce que Pirandello lui-même s'est défini comme un auteur cérébral, rappresenté par la pièce comme elle se présente au spectateur, dans la confusion, le chaos, Pirandello, souvent, il se sert de ce qu'il appelle les personnages résonateurs. Le personnage résonateur, c'est un personnage qui est détaché par rapport aux autres personnages. Un personnage qui a une lucidité et un détachement par rapport aussi même à l'histoire. Par exemple, on a vu dans Cossier, se vi pare, secondo ça, si vous semble, qu'il y a ce personnage de l'Audisi qui n'est pas envahi par la curiosité de cette petite bourgeoisie de province qui veut tout savoir sur cette famille, sur Madame Flore et Monsieur Pons. Et sont presque méchants et malins aux égards de cette famille, cette curiosité maligne, méchante. Lui, il dit non, mais vous ne pouvez pas réussir à vous expliquer la vérité. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une et une seule vérité. Chacun a sa vérité. C'est ça le personnage résonateur qui est un peu dissolu, ce n'est indissoluble. On le voit aussi dans le jeu de rôle, il gioco delle parti. En fait, il y a le Marie, Leone, qui è un personaggio che vit totalement dans una ataraxie. Du grec, ataraxie, ça veut dire manque de passion, manque de sentiment. Il vit, il dit che sa vie è come un gousse d'œuf vide. Il a sucé l'œuf, sucé la poulpe, il lui reste que le gousse vide. Sa vie s'est transformée en un gousse vide, il a perdu tous les sentiments, toutes les passions. Par contre, dans cette ataraxie, c'est la seule façon pour laquelle il souffre plus. Le manque de passion, le manque de sentiments, la seule façon dans laquelle il souffre plus. Et il raisonne. Donc l'occasion est offerte, il doit venger sa femme dans un duel, parce que l'honneur de sa femme était, en 1910, l'honneur de sa femme c'était perturbé par des hommes qui la prennent pour un prostitué, et lui qui était le mari devait défendre l'honneur de la femme, sauf que lui, qui est un raciocinant, à un moment lui dira à l'amant de la femme: moi, je ne suis pas la personne qui se couche avec ma femme, toi, tu es son amant, Donc, basitoad fandra ta femme. Elle s'esquive de ses duels, elle provoquera même la mort de ses gènes qui ira se battre contre ses marquis qui les défient au duel. Après, on voit aussi, bien sûr, aussi dans ces personnages en cherche d'auteur, on a cette figure, cette personnage qui est un personnage de résonateur, qui est le père, qui même s'il est imbibé dans l'histoire, il est totalement pris par l'histoire parce que lui, comme les autres personnages, cherche une représentation à sa tragédie. Il cherche quand même d'être un arbitre entre les personnages, entre le capocomico, comme va dire, le réalisateur, le metteur en scène, qui se parle au terre par contre, e les acteurs réels qui doivent interpréter les personnages. Donc lui, il est aussi à cette rôle de personnage raziocinante. Et enfin, on voit comme dans Henri IV, il y a le personnage de Beltrami qui, néanmoins, il y a le grand psychiatre, le grand alieniste, comme l'appelle Pirandello all'époque, qui vient per risoudre la folie d'Henri IV, lui, il est convaincu che Henri IV, surtout à la fin de la pièce, il est pas fou, et au moment dans lequel il subira un geste de folie de la part d'Henri IV, il le justifiera pas comme un fou, en tant que fou, mais il dirà, il est lucide, il a fait ça pour vengeance. Donc, il ne croit pas à la psychiatrie, il ne croit pas aux autres. Ces personnages-là, ils ne croient pas aux autres. Ils sont toute une logique. Et c'est la logique qui nous permet de dévouer, de dénouer, de tirer les fils qui est attaché à cette nœud, qui est attaché à cette nœud autrement indénuable. C'est ça le personnage résonateur d'un Pirandello. Donc, en revenant alla question dell'envie de sortire du chaos, Pirandello il nous fait sortire du chaos, il nous plonge dans le chaos, ma après il nous farà sortire du chaos, e grâce a qua, grâce au personnage résonateur qui tireront le fil du discours, qui tireront le fil logique du discours. Et pour faire ça, il est plutôt philosophe qu'écrivain, il est plutôt raziocinant qu'émotif, il n'aime pas les émotions, il n'aime pas les théâtres de boulevard, les théâtres où il y a la femme, l'amant, les maris, les théâtres, il y a les histoires un peu passionnales. Non, il n'aime pas les tragédies, les mélodrammes italiens. Lui, il est tout dans cette recherche, quête de vérité, de rationalité, résoudre un énigme, résoudre un problème, résoudre, ça c'est le mot clé de Pirandello. Il veut résoudre le nœud de la vie. Il vero sud se ne che autrement on peut pas résoudre, il vero sur le chaos. À propos de cette lutte contre le chaos, je vous fais écouter une musique de Gotham Project qui s'appelle justement une musique brutale, parce que brutale est le chaos de la vie. On écoute.
Días de dolor. amore lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión.
Command de cette rationalité pirandelienne, on voit comme le théâtre lui-même, cette exigence de rationaliser, fait du théâtre, pas seulement l'édifice, mais les concepts, la structure, la représentation. Voilà, qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est la représentation. La rappresentazione en elle-même devient du meta-théâtre. Elle va au-delà du théâtre. Meta, c'est en mot grec, ça veut dire au-delà. Meta, je sais pas, métaphysique, Aristote, métaphysique, au-delà de la physique, les choses astrettes, on va dire. Le meta-théâtre, c'est un théâtre qui va au-delà de lui-même pour devenir lui-même un personnage. Sinon, le personnage le plus important de cette tragédie qui est la représentation et qui est la vie. Et parfois, ce métathéâtre avec Pirandello devient même un ultra-théâtre. Il va au-delà du métathéâtre pour devenir vraiment... Le théâtre du théâtre du théâtre, c'est l'expression totale de cette exigence qui va au-delà de l'émotivité pour se relier à une spéculation cérébrale. Pirandello lui-même dira dans l'importante préface de 1925 à six personnages en quête d'auteur qu'il est quelqu'un, qu'il est un auteur astruse, qu'il est un auteur cérébral. Ça n'empêche pas que ses œuvres sont très émouvantes et sont très... À la fin, nous laisse un goût dans la bouche. Par exemple, à propos de cet un goût amer, on va reparler de ça. À propos de cette métathéâtralité, on voit comme toute l'œuvre, on l'a vu déjà, toute la pièce, six personnages en quête d'auteur, c'est l'histoire de six personnages qui sont des personnages avancé, qui sont idées, qui sont dans la tête de notaire, mais cet auteur-là, il n'a jamais voulu ou pas eu le courage de mettre leur drame noir sur blanc, de le mettre sur papier, de faire un copione, un plot, une histoire pour le théâtre. Ces personnages-là, alors, sont en quête d'un notaire et il arrive de l'extérieur, il rentre dans la platée, il y a les acteurs, les vrais acteurs qui sont en train d'essayer une pièce, et il y a il capo comico qui est le metteur en scène, qui est le chef de la troupe qui est en train de diriger les acteurs, et il s'impose, il monte sur la scène et il dit au capo comico qui a l'exigence che leur drame soit rappresenté. Cette exigence-là de représentation, cette dichotomie, ça veut dire opposition entre la vie réelle et la représentation, c'est l'exigence de ces six personnages, parce que leur vie réelle, qui n'est pas réelle, parce qu'elle est créée dans la tête de nos termes, mais quand même vécue par six personnages, exige une carnification, exige d'être incarné dans quelque chose, donc dans la représentation. La représentation, en même temps, en reprenant le concept grec de la tragédie grecque, de la catharse, la représentation permet à ces personnages de se libérer de son propre drame. Chacun de ces six personnages, même si c'est une famille, même si les drames sont reliés l'un avec l'autre, a sa propre tragédie. Et tous les six personnages, sauf un, ils ont l'exigence de se libérer de cette tragédie-là. Et donc, ils ont l'exigence, comment tu peux te libérer de la douleur? Comment tu peux te libérer du traumatisme? Sans doute, à travers la représentation. Déjà, mettre noir sur blanc, déjà, par exemple, Leonardo da Vinci, Leonardo, avant de faire ses projets, il faisait des dessins, des esquisses. Dans ses esquisses, il faisait ce qu'on appelle, qui Galileo après appellerà l'expérience mentale. Donc la peinture de Leonardo, le dessin de Leonardo, servait à pouvoir lui permettre de costruire ses œuvres d'ingénierie. Sans la phase du dessin, della concretizzazione di ce qu'il avait en tête, il ne pouvait pas arriver à l'objet fini. Donc, il ne pouvait pas arriver à l'œuvre ingénieristique. Et voilà que ces six personnages-là ont ce besoin d'être représentés. Mais par contre, là subentre une autre discrétie, une autre dichotomie. Discrétie, c'est différence. Dichotomie, c'est opposition. Dyschronie, on pourrait dire aussi, pour utiliser des mots très compliqués, très soutenus. Quand même, cette discrétie-là s'est donnée du fait que ce que les personnages ont vécu et la façon dans laquelle il les met en scène, parce qu'eux-mêmes les met en scène, après seront repris par des acteurs professionnels. Les acteurs professionnels mettront leur drame en scène selon leur propre subjectivité. Donc, ils interpréteront le drame d'un autre. Et voici que la représentation qui devait être une représentation réelle de la vie devient une représentation distorsée, une représentation tordu, une représentation qui n'est pas la vraie sensation qu'ont vécu les personnages, c'est pas la vraie histoire des personnages, c'est l'interprétation que les acteurs donnent à leur histoire. Donc, encore une thématique chère à Pirandello, réalité ou fiction, représentation de la réalité ou interprétation de la réalité. On n'arrivera jamais à représenter la vérité telle qu'elle est, telle que à reproduire jamais les choses telles qu'elles sont, parce qu'à chaque reproduction, il y aura une nouvelle interprétation. Donc on voit comme le servo di Pirandello Marcevita a Milne Sandis è un'innovazione enorme, nel San Va è un'innovazione enorme per rapporto all'epoca. Pirandelli è il primo Nobel di letteratura, forse più teatrale, soprattutto. E un'altra cosa che, ben sûr, il ha questa discrasia tra vi e rappresentazione e la manca di liberazione non è per la catarse, la manca, perché la rappresentazione non ha più a guardie, perché amo male, capo comico, pure le discordanze tra le satire e le personaggi, eppure même le limite fisiche di teatro. Le teatre, il ha dei progettere, il ha degli strumenti limitati, pas come le cinema che per riprodurre la realtà più fidelmente, e le limite fisiche di teatro, il impesce la riproduzione esatta della vita reale dei personaggi. Donc le capo comica a un momento dirà no, je renonce a vous rappresenter. E le celle qui resteront dalle plateau, dalla scène, tous les autres partiront, sont ces personnages qui resteront comme des fantômes. Fantômes sont arrivés, fantômes resteront sans pouvoir voir satisfaite leur envie d'être représenté, de trouver un auteur, de trouver quelqu'un qui les met noir sur blanc. Le drame restera bloqué en eux. Comment ça termine cette pièce? Avec un riz fragrant et presque morbide de la belle fille qui court et s'échappe de la scène du théâtre et se dirige dehors. E a proposito di questa faillite di rappresentazione, faillite di catarsis, la pire faillite di catarsis, le dramma pire che n'ha jamais, che pourra jamais libérer l'esprit humain, che pourra jamais avoir une libération lui-même, c'est la mort. Et sur la mort, je vous fais écouter cette très belle chanson de Jacques Brel, qui s'appelle, comme vous tous connaissez, elle s'appelle Fernand.
Dire que Fernand est mort, dire qu'il est mort, Fernand. Dire que je suis seul derrière, dire qu'il est seul devant, lui dans sa dernière bière, moi dans mon brouillard, lui dans son corbillard, moi dans mon désert. Devant, y a qu'un cheval blanc. Derrière, y a que moi qui pleure. Dire qu'y a même pas de vent pour agiter mes fleurs. Moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Dire que maintenant il pleut, dire que Fernand est mort. Dire qu'on traverse Paris dans le tout petit matin, dire qu'on traverse Paris et qu'on dirait Berlin. Toi tu sais pas, tu dors, mais c'est triste mourir, d'être obligé de partir quand Paris dort encore. Moi, je crève d'envie de réveiller des gens. Je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Et puis, si j'étais le bon Dieu, je crois que je serais pas fier. Je sais, on fait ce qu'on peut, mais il y a la manière. Tu sais, je reviendrai souvent dans ce putain de champ où tu dois te reposer. L'été, je te ferai de l'ombre, on boira du silence à la santé Constance qui se fout bien de ton ombre. Et puis, les adultes sont tellement cons qu'ils nous feront bien une guerre. Alors, je viendrai pour de bon, promis, dans ton cimetière. Et maintenant, bon Dieu, tu vas bien rigoler. Et maintenant, bon Dieu, maintenant, je vais pleurer.
Et voilà que à cette chanson sur la mort, qui est la dernière des traumatismes qui ne trouvera jamais une représentation, un catharsis, à mort, il peut parler chez un psychologue pour se faire soigner, il est mort. Il troverà jamais un catharsis qui lui amènerà all'au-delà de voir visualiser son dramma. Come jamais un catharsis ne trouve pas non plus Henri IV. Henri IV non ha parlato, è un personaggio, e je souligne un personaggio, parce qu'on parle de personnes et de personnages. Grotowski dice che un attore è un person, un actor è un person, donc il peut interpréter n'importe quel personnage, parce que dans lui il a une multitude de personnages. On est comme des diamants avec mille facettes, un plus grand, un plus petit. Pirandello anticipe Grotowski sur ça e dit che effectivement, Henri IV, il n'est plus une personne, mais un personnage. Pourquoi? Parce que à cause d'un accident, justement cet accident s'est reproduit pendant une mascarade, pendant une chevauchade à masque, les gens étaient invités à s'habiller avec des costumes médiévaux sur la thématique du roi de Sassonie, Henri IV. Lui, il est Henri IV dans cette mascarade. Il tombe de cheval et il perd la raison. Il perd la raison et il reste Henri IV pendant 12 longues années. L'effet de perdre la raison et de rester entrappolé dans son passé pendant 12 longues années et de rester dans le personnage, on ne connaît pas le vrai nom d'Henri IV. On voit comme tous les autres personnages sont des acteurs et personnages en même temps parce que par exemple, les serviteurs qui, on va dire, sont les conseillers, qui, on va dire, qui sont les personnages historiques, on les appelle comme ça, parce qu'ils sont plongés dans cette histoire, ils sont plongés dans le château d'Henri IV. Henri IV, dans sa folie, si fait costruire un château qui riproduisse la salle du trono d'Henri IV. Les personnages qui sont plongés dans cette histoire-là, même si sont, on va dire, la plupart du temps, recité leur part d'être des personnages du Moyen-Âge, dès que le roi se faufile, dès que le roi part dans une autre chambre, dans une autre pièce, il s'appelle pour parlare leur nom. Et même il regarde Henri IV, il sourit sur Henri IV, il se moque de lui, de sa folie. À un moment, il arrive d'autres personnages, che sono i personaggi della contemporaneità. Sono dei personaggi che ont più, pendant les années, sono passati 20 anni dell'accident, ont più se costruire una vita, ont più se costruire un présent, ils ont fait des enfants, ils ont eu des relations, des amants, des amours. Ces personaggi-là, on les appelle ces personaggi contemporanei pour les contreposer aux personnages historiques. Et ces personnages-là est aussi un nom, et aussi correspond à des personnes et pas à des personnages. Henri IV il est que l'altisonnant, le magniloquent, empereur de Sassonie, le grand Henri IV, sans un nom de personne. Il est que Henri IV, il est bloqué dans son personnage, il est bloqué dans son rôle. Par contre, à un moment, il y a un déclic. À un moment, la folie passe et il commence à voir les choses telles qu'elles sont. Mais il est tellement pris dans son personnage. Il se rend compte que ses cheveux sont plus blonds comme avant. Donc, il commence à se maquiller, à peindre les cheveux comme quand il avait 26 ans, comme quand Henri IV allait à Canossa pour se plier à la volonté du pape. Comme quand dans son vraie histoire, il est tombé des chevaux, des cheveux blonds. Et donc, il commence à s'éteindre les chevaux. S'éteindre les cheveux. Cette exigence de continuer la perpétuité, le passé qui a une perpétuité dans le présent, le passé qui, son présent est bloqué dans son personnage. Et donc on voit comme même ici, il n'arrive pas à se détacher de ce personnage parce que la vie des autres est passée. Tous les autres se sont fait une famille, ils ont des enfants. Les enfants ont grandi, les enfants sont en train de se marier, etc. etc. Lui, non, il est resté bloqué. Et il ne peut rien faire rien d'autre que continuer la fiction, et là subentre encore une fois la représentation. Il continuait à faire semblant d'être Henri IV aux yeux de tout le monde. Et pendant 8 longues années, il fera semblant d'être Henri IV. Lui-même, il fait semblant d'être Henri IV. Lui-même, il rentre dans son personnage parce qu'il a impossibilité à en sortir. Parce qu'il a perdu, il a un gap il a un trou dans sa vie de 12 ans, il peut plus le récupérer ces 12 ans. Imaginons quelqu'un qui est en coma pendant 12 ans. Après sortir d'un coma de 12 ans, c'est pas facile. Et à propos de cette vie d'air dans laquelle Henri IV plonge, cette impuissance à sortir du personnage, dans cette obligation à continuer à réciter le rôle du désespéré, qui autour de lui il a che du vide, il a un monde illusoire, un monde qui n'esiste plus. On écoute une chanson qui s'appelle Ville vide, città vuota, une chanson della grande interprète Mina, qui entre parenthèse est quelqu'un qui a signé, qui a marqué la musique italienne avec sa grande voix très puissante, ses très belles chansons, mais qui au début dans les années 50 et 60 elle était refusée par la RAI, Radio Télévision Italiana, c'est la radio télévision officielle d'Italie, la télévision d'État, parce qu'elle était divorcée, parce qu'elle avait un enfant, qu'on ne savait pas le père de cet enfant, donc elle était une femme un peu comme Henri IV, qui venait à mille côtés, comme elle n'était pas folle, mais elle était pute, donc c'était grave pour l'époque. On écoute Ville vide de Mina, città vuota.
Folla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Se non torni tu, c'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città, e io vivrò con te tutti i miei giorni.
On voit comme ces personnages-là le personaggi, chi non fa un virel e chi vuole la guarda la rappresentazione. Eric Attra, che è bloccato dalla sua follia e continua a perpetuare dalle presenze nel passé. Questi personaggi là sono sans doute dei margiron, sono dei personaggi che vivono a defetto. Una parlare l'altro giorno nel descendio delle dettaglie, una parlare della tematica dell'ancestro, non voulu, non se ve pas si le uo pas et ancestre, ma le vele per de si personaggi che a un moment se le trova avec la belle fille, che la belle fille le te obligé a se prostituer là nell'atelier de Madame Père, l'atelier où sa mère amenait les vêtements qu'elle cuisait. Donc, il se retrouve dans cette acte dégueulasse, même les lecteurs, quand il dit cet moment, cette partie-là de la pièce, il est dégoûté. Donc, on voit vraiment les drames de ces personnages. Henri IV, à la fin de la pièce, quand il est sur le point de dire à tout le monde qu'il est plus Henri IV, il est lui-même, on ne connaît jamais son nom. Pour jalousie et pour vengeance, il prend son épée, qu'il avait toujours sur lui en tant que roi de Sassonie, empereur de Sassonie, et il transperce son ennemi, Beltrami. Et là, il est obligé à ne pas sortir de la folie, même s'il était en train d'avouer qu'il n'était pas fou, il est obligé à continuer à jouer son rôle de fou, sinon il va en prison, il a tué quelqu'un. Et à propos de cette marginalité, de cette le théâtre de Pirandello, c'est un théâtre de sconfitti, des gens qui sont des perdants, des gens qui ont perdu leur bataille avec la vie. Je vais terminer cette émission, après on reviendra peut-être, mais je vais vous faire écouter une chanson très très belle, interprétée toujours par Mina, mais qui à la base c'était d'un grand chanteur italien, Gino Paoli. S'appelle Le ciel dans une chambre. Et cette chanson-là parle d'un homme qui rencontre une prostituée. Lui il a dédié cette chanson à cette prostituée. Et dit à cette prostituée que quand elle est avec lui, cette chambre n'a plus de murs, mais des arbres. Des arbres infinis. Le ciel est dans sa chambre. Donc cet amour qu'il a pour cette prostituée, pour cette perdante, pour cette marginale, comme la société dirait, un dégueulasse de la vie. On va écouter cette très, très, très belle chanson de Gino Paoli, reprise par Mina. On va écouter pour l'appoint Il cielo in una stanza, le ciel dans une pièce.
Questa stanza non ha pareti, ma alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui fosse più niente, più niente al mondo.
Vous savez qu'est-ce que c'est la logorrhée? Être logorrhéique. C'est pas la diarrhée. La diarrhée, c'est lié au trou du cul. La diarrhée, c'est quand tu cagues, tu cagues, tu cagues, tu cagues, tu cagues, tu cagues. Et à force de caguer, pardon. Ça me vient de rigoler. À force de caguer, même le trou du cul se rétrisse et s'allarge. Se rétrisse quand vraiment tu te vides. Ecco, la logorrhée, c'est quelque chose similaire au opposé. La logorrhée, c'est la bouche e le cerveau qui ont trop parlé. On est, je suis logorrhoïque. A chaque fois, je parle trop, vraiment. Comme ce trou du cul qui, à force de se vider, se rétrécit et s'allarge, mon cerveau et ma bouche, ils ont trop parlé. Et donc, je vous laisse avec une dernière chanson. On abandonne tout ce discours cérébral, parce qu'il faut aussi, pas que la cérébralité, pas que la rationalisation, il faut l'émotion. Je vous laisse avec une chanson très émotive. Qui personne entre vous comprendra, ni algérien, ni italien, ni français, ni espagnol, parce que c'est une chanson chantée par un italien, que j'estime beaucoup, et comme il dit, il avait l'objectif de latiniser la langue arabe, un peu présomptueux, mais quand même sympa. Un italien qui s'appelle Battiato, un sicilien, qui fait un concert à Baghdad et je pense qu'il chante à un Irakien cette chanson-là qui est à la base chantée en italien et s'appelle L'ombre della lumière, l'ombre della luce. L'ombre della luce, c'est une chanson très mystique et très belle que je vous laisse écouter.
وشجوى السبابتي والجوا ووجد الفؤاد إن هي إلا ظلال خبرني بكربي وخي بيتي بعيدا عن ناموسك كيف لا أهدو أزمان فلا لأن سفى جناني في معبدك أو نغماتي توحدي ترب فرحتي إن هي إلا ظلال النور.
Et voilà que sur cette partition au rythme oriental, je vous laisse et j'espère que vous êtes arrivé à apprécier la partition, la célébralité de la partition pirandellien, de la partition du texte pirandellien, de son rationalisme. C'est quelque chose de célébral et logoroïque, mais en même temps très charmant et qui nous donne un sens à la fin de... On reste bouche bée. On reste bouche bée parce qu'on est vraiment sur ce monde de la défaite et des marginaux. Et il ne veut pas parler des sentiments, mais il est obligé à le faire. Je vous salue. À de lundi avec Simone. Avec moi-même, et sur Nino de Maria Palermo. Bisous.